Bonjour, c'est Philippe Sanfourche. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors-série pour partager avec vous chaque semaine, dans leur intégralité, des entretiens avec des acteurs de l'actualité. Et je vous propose aujourd'hui le témoignage de Patrice Agelauer, l'ancien consultant tennis de RTL, ancien directeur technique national à la Fédération française. Patrice a surtout été pendant 11 ans l'entraîneur de Yannick Noah, dont on fête cette année les 40 ans de la victoire à Roland-Garros. Isabelle Langer s'est longuement entretenue avec Patrice Agelauer, qui n'a rien oublié de ce 5 juin 1983.
Bonjour Patrice Agelauer. Alors avant de parler, Patrice, de ce 5 juin 1983, il faut d'abord revenir quelques semaines en amont, parce que quelques semaines avant Roland-Garros, tout n'est pas rose pour Yannick Noah.
Non, en fait, le tournoi de Monte-Carlo s'était déroulé dans des conditions un petit peu particulières. Yannick était pas bien dans sa peau, il y avait eu des histoires personnelles. Finalement, il a fait un très mauvais match contre Orantes, qui était un joueur qu'il devait battre. Orantes, c'était plus le grand Orantes tel qu'on le connaissait. C'était un Orantes que Yannick devait normalement battre en 2-7. Finalement, il a fini par perdre contre Orantes. Et ça a été en fait le déclenchement d'une réunion qu'on a eue où... Je voulais que vraiment Yannick refixe ses priorités. Qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour lui? Est-ce que vraiment Roland-Garros était toujours son objectif principal? Et donc on a eu une discussion qui était une discussion importante, où j'ai vraiment au fil de la discussion senti que Yannick se remotivait, repartait dans ce rêve qui était de gagner Roland-Garros, et puis qu'il avait vraiment l'intention de s'en donner les moyens. Donc ça a été vraiment un moment tout à fait particulier, je dirais essentiel pour repartir sur un programme très, très facile, je dirais, à écrire, bien sûr, mais très compliqué à suivre, parce que ça demandait beaucoup d'efforts, il y avait pas mal de tournois, et puis on avait... mis sur pied aussi une préparation juste avant Roland-Garros, qui était une préparation très particulière, qu'on estimait être vraiment essentielle pour arriver en pleine forme à Roland-Garros.
Alors justement, cette préparation particulière, elle est novatrice presque à l'époque, de faire ce que vous avez fait. Racontez-nous un petit peu. Vous vous isolez dans une maison à lui, c'est ça ?
Oui, en fait, c'était sa maison. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'à cette époque-là, Yannick était vraiment la star. Il y avait deux, trois sportifs très connus. Il y avait Alain Prost, il y avait lui, il y avait Bernard Hinault. Enfin, ils étaient très, très peu nombreux. Le sport français n'était pas comme aujourd'hui, où il y avait vraiment eu des tas et des tas de bons résultats. Donc, Yannick était la star. Il fallait absolument l'isoler et puis éviter toutes les sollicitations. Donc, moi, j'avais pris contact avec un club qui était assez proche de la maison qu'il habitait à l'époque. C'était à Nainville-les-Roches, c'était donc à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et c'était surtout pour qu'on soit tranquille et puis qu'il puisse être vraiment centré sur juste sa préparation, pouvoir travailler tranquillement. Et donc, dans ce club, j'avais été voir le président. J'avais demandé au président, écoutez, président, j'aimerais vraiment que Yannick ne soit pas dérangé. Est-ce que vous pouvez nous mettre un court à disposition et sur lequel on puisse s'entraîner vraiment toute la journée? Et donc, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, il avait mis une grande bâche pour nous séparer d'une école qu'il y avait à côté pour éviter que les jeunes qui étaient là nous voient. Donc, on était complètement isolés, ce qui me permettait... En fait, d'arriver le matin chez Yannick, de prendre Yannick, et puis on partait tranquillement en voiture à 9h du matin. On faisait un peu plus de 2h le matin, on revenait, on déjeunait dans sa maison tranquillement, où vraiment il y avait une cuisinière qui nous avait préparé des petits repas sympas, bien diététiques, et puis il faisait une sieste en début d'après-midi, puis on repartait sur le coup de 3h, et on retravaillait environ 2h l'après-midi, on revenait, et là, Yannick partait courir avec ses chiens, dans la nature, complètement. Donc là, je le suivais pas parce qu'il allait trop vite, bien évidemment, mais il partait courir et c'était vraiment formidable parce que après 4 heures des fois plus d'entraînement vraiment dur, parce que vraiment c'était intensif ce qu'on faisait, il courait avec ses chiens, il revenait après dans une petite salle qu'il avait aménagée dans une grange chez lui, c'était une salle de gym, il faisait ses exercices, il faisait ses abdos, il faisait tout ça, donc ça donnait des journées vraiment de 6 heures ou plus d'entraînement et il n'y avait que ça, quoi. Il était complètement dans son élément, c'était un vrai régal, c'était très dur, un vrai régal en même temps et on ne pensait qu'à ça. Et à la suite de ce travail, de ces 8 jours d'entraînement, on s'est retrouvé ici à Roland-Garros. Il a joué pendant la journée Beniberté. Il a joué contre Mats Wilander. C'était organisé par Jacques Dorfman qui voulait le faire jouer contre Mats Wilander, ce qui était très drôle. Et puis à la suite de ça, il y a eu une conférence de presse et c'est le seul moment où moi j'ai eu l'occasion de dire quelque chose que je dis très très rarement. Je dis, écoutez, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Parce que Yannick, c'est exceptionnel ce qu'il a pu faire vraiment physiquement, c'est tout à fait étonnant. Et je sentais véritablement que, voilà, que non seulement il y croyait, mais il était prêt. Il était vraiment prêt. Donc, un, parce que physiquement, il avait fait tous les efforts qu'il fallait faire. Tennistiquement, tout allait bien. Il avait gagné aussi un tournoi juste avant, qui était le tournoi de Hambourg. Et en quart de finale, il avait battu Mats Wilander. Et il avait battu Higueras. Il était vraiment dans les tout meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Et la confiance était là. Et je savais que ses adversaires le redoutaient. Donc c'était vraiment une préparation qui était la préparation un peu idéale pour qu'il arrive au moment de Roland-Garros en pleine forme, vraiment et en pleine confiance.
Et puis après, il y a tous ces matchs qui se suivent. Vous vous en souvenez de tous ces matchs? Vous êtes capable de dire un mot sur chaque match?
Pratiquement. Je me souviens du match contre Alexander, hein, qui était un joueur qui n'était pas vraiment un spécialiste de la terre battue, qui s'était donc déroulé très très facilement. Mais je me souviens surtout de son match contre Lendl, qui était un grand moment, parce que je dirais que c'était un match un peu particulier, puisque Lendl, c'était le meilleur joueur du monde de l'époque. C'était un joueur que l'on connaissait bien, parce qu'il était de la même année qu'Yannick. Donc, il s'était suivi pendant toutes les épreuves juniors, les Coupes de Galéa, et ainsi de suite. Et je dirais qu'ils étaient tellement différents l'un de l'autre. Il y en a un qui était hyper régulier, qui était vraiment une machine, qui en plus n'avait pas beaucoup de charisme, et donc c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment apprécié dans le monde entier, alors que Yannick, partout où il allait, il avait le public avec lui, que ce soit en Australie, aux États-Unis. Mais bon, Lendl était une machine de guerre, un joueur vraiment redoutable. Mais Yannick avait une confiance terrible contre lui. Il savait, il était persuadé que Lendl n'aimait pas le jouer, que Lendl était souvent contracté, crispé contre lui, et c'est ce qui s'est passé. Et donc Yannick l'a battu, et vraiment, c'était un excellent match de Yannick. Et là, j'ai senti qu'il était vraiment prêt. D'autant plus que l'adversaire qui devait jouer ensuite était Connors, avait perdu contre Christophe Roger-Vasselin. Et Christophe Roger-Vasselin était un joueur qui ne posait pas de problème à Yannick. Et d'autant plus qu'il avait fait un match très difficile contre Connors. Et qu'on savait et on pensait qu'il allait être un peu émoussé contre Yannick. Et c'est ce qui s'est passé contre Yannick. Il n'a pas vraiment pesé lourd. Et ce qui a fait que Yannick est arrivé tout à fait frais contre Mats Wilander. Et là, il y a eu, c'était un grand moment, parce que c'est vrai que Mats était un joueur qui était exceptionnel, hein, un grand, grand champion. Mais Yannick avait à la fois les qualités pour le battre, et il l'avait prouvé juste quelques semaines avant, justement en le battant en quart de finale, facilement, 6-4, 6-4. Et moi, je savais, et lui, il savait bien évidemment aussi, que le jeu d'attaque de Yannick posait des problèmes à Mats Wilander. Il fallait qu'il le bouscule, il fallait que vraiment il l'agresse en permanence, et que Wilander n'aimait pas ça. Wilander aimait rester en fond de court, construire son petit jeu, là essayer justement de bouger son adversaire. Mais Yannick n'est pas du tout rentré dans ce jeu-là. Et du début jusqu'à la fin, c'était une machine là aussi à attaquer, à agresser. C'est comme ça qu'il a battu Mats Wilander. Et là, après, bien sûr, c'était une explosion de joie.
Je reviens sur cette journée particulière. Le matin, il se passe des choses avant de venir à Roland-Garros, juste avant de rentrer sur le court. Vous lui dites des choses. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on avait mis en place un rituel de fonctionnement. Je voulais que Yannick vienne le moins possible à Roland-Garros, parce que tout le monde voulait que Yannick gagne à Roland-Garros, mais il n'y a rien de pire que de croiser des gens de tous les côtés qui vous disent « Alors c'est cette année, Yannick, tu as gagné, hein, c'est cette année. » Je voulais qu'il évite tout ça et qu'il reste juste concentré sur son jeu, sur lui-même, et qu'il n'entende pas 36 000 personnes qui le flattent et qui essayent vraiment en permanence de lui dire c'est ton tournoi, et ainsi de suite. Donc on s'isolait, on allait se préparer au Racing. Donc on avait rendez-vous tous les matins au Racing, hein, vers 9h ou 10h du matin, et là on faisait suivant que c'était le jour du match où on faisait juste un échauffement, ou suivant que c'était entre les deux jours où il devait jouer, on avait une journée complète où on faisait là un entraînement. Donc on faisait, c'était plus ou moins intensif. Mais c'était vraiment un rituel, et puis c'était bien parce que le Racing, il était un peu protégé. Personne ne venait l'embêter. Il avait ses amis, donc il pouvait déjeuner avec ses amis qui lui prenaient pas la tête, et c'était vraiment tout allait bien. Le soir, il pouvait rentrer chez lui, et là, il rentrait à Nainville quand il jouait pas le lendemain, ou il restait à Paris. Mais très souvent, il retrouvait son père, que son père d'ailleurs le soir. Et là, c'était certainement pour lui, de ce qu'il m'a dit après, un moment formidable où son papa le rassurait. Et c'était un climat tout à fait favorable à la performance. Donc isolé. Yannick le mettre un peu dans une bulle et être uniquement concentré sur son tournoi, ses objectifs.
Et alors le jour du match, vous lui dites des choses avant de rentrer, vous savez ce qui... Enfin, des fois on sent les choses. Hein.
Oui, tout à fait. Donc il y avait des discussions. Yannick était quelqu'un qui parlait pas trop, mais il avait besoin quand même de communiquer. Ça venait souvent de lui, ou il me posait des questions, ou ça partait sur un aspect un petit peu tactique pour le rassurer. Comme des fois c'était avant le match de Lendl ou bien avant avant la finale où il avait besoin bien sûr d'être un peu tranquille et puis de recevoir les quelques mots, les quelques paroles qui pouvaient à la fois lui donner la confiance qu'il fallait qu'il ait justement pour rentrer sur le central. Et c'était souvent aussi, vous savez, un problème qui était un problème d'ambiance aussi. C'était pas simplement l'adversaire, c'était ce central, parce que c'était quand même la star de l'époque et qu'il y avait toujours dans le stade, quand il jouait, 15 000 personnes qui étaient 15 000 supporters de Yannick, et 15 000 personnes qui s'identifiaient avec Yannick, qui auraient voulu aider Yannick. Et ça, il y avait 15 000 sur le stade, mais on savait qu'il y en avait aussi des millions et des millions qui regardaient à la télévision et qui étaient derrière Yannick. Et ça, c'était assez, assez extraordinaire. Et là, j'ai une anecdote absolument incroyable. Une fois, après un match, je crois que c'était après le match de Lendl, Yannick me dit mon service, j'ai besoin de travailler un petit peu mon service. Donc, on part en Racing, on fait quelques services parce que moi, j'essayais de le rassurer parce que dans ces moments-là, il faut surtout être le plus positif possible. Donc, je lui dis, écoute, ne te fais pas de soucis sur ton service, mais si tu veux faire quelques services, viens, on y va. Donc, il fait un quart d'heure, 20 minutes de service, tout allait bien, bien sûr. Mais là, il y avait un vieux membre du Racing qui était là, qui observait Yannick servir et qui après est venu voir Yannick. Il lui dit, écoute, Yannick, pour ton service, mais lance ta balle un peu plus haut. C'est ça, il lui montrait ça. Et c'était exactement ce que tous les Français pensaient à cette époque-là. C'est-à-dire, tout le monde voulait apporter quelque chose à Yannick, aider Yannick pour qu'il puisse gagner Roland-Garros. C'était assez sympa de voir vraiment comme ça une personne, un membre du club qui puisse dire quelque chose à Yannick.
L'ambiance dans le vestiaire avant qu'il rentre sur le court, il est comment ? Vous êtes avec lui ?
Alors oui, j'étais avec lui. Il y avait le docteur Cousteau qui était là à certains moments. Robert Laurence, le fidèle kiné qui était là aussi, qui de temps en temps lui disait quelques mots aussi. Donc c'était vraiment ses proches qui étaient là. Mais vous savez, dans ces moments-là, il y a peu de monde. Ce sont des moments où il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'il soit justement le plus fort possible, qu'il soit rassuré, qu'il soit tranquille, qu'il soit confiant quand il rentre sur le terrain. Mais il était naturellement très fort, Yannick. Yannick a toujours été quelqu'un qui, quand on regarde un petit peu les statistiques sur les finales, c'était un guerrier, c'était un vrai boxeur, quoi. Il rentrait dans ses moments forts, vraiment. Et je crois que ça le psychologiquement, ça l'aidait aussi. Ces moments-là, c'était ce qui le faisait vibrer. C'était ce pourquoi il jouait au tennis. Ça a toujours été ça, Yannick. Quand il sentait qu'il avait derrière lui le public, que les gens étaient là, le supportaient, il était vraiment très, très fort. Et curieusement, quand on parle avec Vilander, hein, aujourd'hui encore, quand on parle de cette finale, Mats, qui est un champion énorme, 7 victoires en Grand Chelem, 11 finales et autres, il dit qu'il aurait voulu être à la place de Yannick, parce qu'il a admiré Yannick pendant toute cette finale, quoi. Il était là, il était vraiment, je dirais pas paralysé, mais il était en admiration, et c'est extraordinaire, Yannick, mais de voir cet engouement, il disait, c'est fantastique, de Yannick, ça lui donne des ailes, quoi. Et il sentait que Yannick était quasiment imbattable ce jour-là.
Et à la fin de match, oh là, c'est du délire, quand même. Les images, elles sont bien présentes dans votre tête? Presque les sensations?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais quand j'en parle, j'ai toujours un peu des frissons, hein, à n'importe quel moment. Mais vous savez, ce que je ressens très fort, bien sûr, il y a cette balle de match, hein. Et puis, Yannick gagne le match, se met à genoux, les bras en croix, comme ça, et tout de suite se tourne vers son papa, qui est en train de sauter par-dessus les tribunes, qui sont hautes, hein, elles sont à plusieurs mètres, qui se cassent la figure, qui courent vers Yannick, qui courent l'un vers l'autre, ils s'enlacent, ils s'embrassent. C'est le rêve qui se réalise enfin. Et puis tout le petit clan de Yannick qui est là et qui vibre, bien sûr. Et puis tout d'un coup, Yannick court vers moi, m'attrape, me tire, me fait tomber sur le cours, me serre dans les bras et me dit « on a gagné, on a gagné ». Je dirais ça, c'est la plus belle récompense qu'un entraîneur puisse avoir de son joueur. Et Yannick, le généreux, plus généreux que lui, il n'y a pas, qui vous embrasse et qui vous enlace et qui vous dit « on a gagné ». Je veux dire, c'est fantastique, quoi. Et à partir de là, c'est effectivement un déchaînement. Il grimpe, il y a Marcel Bernard qui l'attend, qui l'embrasse aussi, le vainqueur précédent, de nombreuses années avant, bien sûr. Et puis Jean-Paul Lotte, Jean-Claude Massy, enfin tous les proches qui travaillent à la fédération, mais bien sûr Robert Laurence qui voit tout ce petit monde-là, je dirais, en larmes de joie autour de nous. Et puis le public, merveilleux public, incroyable, les gens qui étaient tous debout, qui étaient tellement heureux de voir gagner Yannick. Et là, Yannick ne savait plus où donner de la tête, il passe d'un endroit à un autre. Et puis, donc après ces moments tellement, tellement fabuleux, le souvenir que j'ai aussi, c'est au moment où je quitte Roland-Garros, parce qu'après il y a eu la fête bien sûr chez Yannick, mais au moment où je quitte Roland-Garros et je me retrouve dans le parking pour prendre ma voiture, qui je vois ? Yannick Noah, qui était là avec les personnes de l'entretien. Les personnes de l'entretien qui étaient les gens avec qui Yannick avait quasiment grandi, parce que Yannick avait logé ici quand il avait 17, 18 ans. Et là, il y avait Mabrouk qui était le responsable des vestiaires, et tous ces gars-là, Yannick avait récupéré une bouteille de champagne, et au milieu du parking, avec tous ces gars-là, eh bien, voilà, ils sablaient le champagne. Et ils étaient tous, mais tellement heureux, ces gens-là. Et Yannick a passé, mais une demi-heure avec eux, vraiment, et c'était tellement fou de voir ça, qu'après tous les honneurs qu'il avait pu avoir, eh bien, il était avec ces gens-là. Mais ça, ben ça, c'est Yannick, et ça, c'est vraiment bien dans ma tête.
Et après, il y a la fête. Vous y allez, vous, à cette fête ?
Bien sûr que j'y étais. J'étais, je ne sais pas combien de temps, je suis resté dans la piscine, et j'ai certainement failli me noyer dans la piscine. Mais c'était un moment où c'était de la magie, de la folie. Je sais pas, j'avais l'impression que la terre entière venait là, participer à la fête de Yannick. Il y avait tout le village. À Nainville-le-Roche, les Roches, il y avait tout le village qui était là, tous les proches de Yannick, tous les amis. Il y avait un monde fou. Tout le monde se retrouvait dans la piscine. C'était absolument incroyable, quoi. Et puis, il y a des moments, bien sûr, je me souviens plus de ce qui s'est passé parce que j'avais des moments de lucidité au milieu de la piscine. Je me dis, mais je vais pas voir. On était 30 dans la piscine. Là, tout le monde terminait dans l'eau. C'était un bonheur. Et c'était ça aussi, je dirais, le Yannick qui a certainement été dans l'incapacité de jouer les jours qui ont suivi parce qu'il partageait son bonheur avec la terre entière. Et c'était là qu'il était tellement, je dirais, différent des autres parce que c'était un vrai moment de partage. C'était un vrai moment où son rêve se réalisait. Le petit Yannick qui venait de Yaoundé, qui avait quitté très tôt les parents à 12 ans pour aller au tennis études du Parc Impérial à Nice et puis qui avait ce rêve dans sa tête. Et puis cette ambition suprême là de gagner Roland-Garros, et ben, c'était fait, c'était réalisé. C'est absolument magique.
Entretien réalisé par Isabelle Langer. Si vous avez aimé ce hors-série de Focus, n'hésitez pas à le commenter, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.